Si tu écoutes ce podcast, il y a de grandes chances que tu connaisses actuellement des disputes dans ton couple ou dans un précédent couple dont le projet commun a fini par donner lieu à une fausse couche relationnelle. En tout cas, je fais l'hypothèse que tu as sans doute envie d'avoir des solutions ou bien des meilleures réactions ou bien une meilleure façon de te disputer dans ton couple ou lorsque tu es en couple, parce qu'effectivement, il y a les bonnes disputes et il y a les mauvaises disputes. J'aime bien comparer ça à l'investissement financier et aux dettes notamment. Il y a des bonnes dettes, c'est les dettes pour investir dans l'immobilier. Tu vas emprunter de l'argent qui appartient à la banque et à partir de cet argent, qui n'est pas le tien, tu vas créer de la plus-value immobilière. Mais il y a aussi la mauvaise dette, celle du crédit à la consommation, qui ne crée aucune plus-value pour ton portefeuille ni pour ton avenir. Et bien pour les disputes, c'est pareil. Il y a des disputes qui sont des investissements fructueux et des disputes qui ne créent aucune valeur ajoutée à ton projet de couple. Couple qu'on espère à la fois stable et en même temps épanoui. Souvent, dans les disputes, on s'accroche pour ce qui est des détails aux yeux de l'autre. On tourne en rond dans les mêmes conversations, on a cette impression étrange que quoi qu'on dise, ça n'atteint jamais vraiment l'autre là où on le souhaite. On peut se transformer en une sorte de militante pénible pour l'autre, mais pour soi-même également, parce que rien ne change. En bref, on peut avoir l'impression qu'on cherche simplement à avoir raison ou le dernier mot, plutôt qu'à se comprendre et à se faire évoluer, avec une cadence qui n'est pas du tout le rythme idéal d'évolution ni de l'un ni de l'autre, mais qui va permettre malgré tout de finir par s'ajuster l'un à l'autre sans qu'aucun des deux ne soit dans une suradaptation qui lui est violente. Dans une dispute, chacun est dans son j'estime que, avec la sensation d'être légitime et le besoin d'être reconnu dans son malheur, dans son besoin, dans sa douleur. Ce que je te propose, c'est pour commencer de changer d'angle de vue sur les disputes et d'envisager que ça n'est presque jamais le vrai problème. C'est pas non plus toujours ou pas que un problème de communication. Alors parfois ça l'est, il peut y avoir des défauts de communication, des maladresses de communication, des malentendus, des excès de communication même. Mais au milieu de toutes ces habiletés de communication qui ne sont pas innées et qui demandent à être apprises, c'est important de le dire, il y a dans le fond des réactions qui sont des réactions de survie émotionnelle et de survie relationnelle. Et tant que tu restes à la surface des échanges, sur le pourquoi on se dispute, tant que tu cherches à mieux expliquer, à mieux argumenter, à trouver les bons mots, à faire céder, tu passes à côté de ce qui se joue réellement et à côté de ce que tu dois toi comprendre avant même de chercher à être mieux comprise, mieux compris, à mieux expliquer, à mieux argumenter, à trouver les meilleurs mots, etc. etc. Dans le couple, on est le principal irritant de l'autre. Ton ou ta partenaire est également la principale source d'irritation pour toi parce qu'on forme l'un pour l'autre des géants sensoriels, des géants affectifs. Et en plus de ce gigantisme, on a mis cette personne tout près de notre cœur et on y est surexposé. Évidemment, ça forme un cocktail qui régulièrement va faire des étincelles et qui peut même parfois faire des explosions. Ce que je te propose, c'est de voir la dispute comme un révélateur de quelque chose de plus profond en chacun d'entre nous, qui est plus ancien que ce qui se joue, ici et maintenant, et qui te donne accès à une part de ta vulnérabilité et à une part de la vulnérabilité de l'autre. On ne peut changer que ce que l'on observe, et on ne peut observer que ce dont on a conscience. C'est là où passer de l'ignorance, de l'inconscience, à la connaissance, à la conscience, c'est le début de ton pouvoir d'agir sur tes ping-pong relationnels. Alors pour commencer cette conscience, cette connaissance, je te partage un modèle de mauvaise communication de couple mis en lumière par John Gottman, qui est un thérapeute américain qui est très âgé maintenant et qui est spécialisé dans les relations de couple. Et il a défini 4 cavaliers de l'apocalypse qui nuisent aux relations affectives. Ces 4 cavaliers de l'apocalypse de la communication de couple, ce ne sont pas des défauts de personnalité, ni des preuves d'immaturité. C'est important de le dire. Ce sont des mécanismes de protection individuelle. Le premier cavalier, c'est la critique. Elle ne consiste pas à dire que quelque chose ne va pas, mais à attaquer l'identité de l'autre. Ça rend l'autre incompétent, ça dévalorise. Quand tu dis « tu es toujours comme ça, tu ne penses jamais à moi, on ne peut jamais compter sur toi », ou de manière implicite, non-verbale, par des soufflements, des tapotements de pieds, des yeux au ciel et autres marques d'agacement, tu ne formules pas un besoin. Tu exprimes, d'une mauvaise façon, une peur ou un besoin, mais tu ne la formules pas. Ça peut être la peur de ne pas compter, ça peut être le besoin de compter plus, la peur de ne pas être importante ou le besoin d'être plus important, la peur de ne pas être choisi ou le besoin d'être choisi, la peur de ne pas pouvoir compter sur l'autre, le besoin de fiabilité, etc. Le deuxième cavalier de l'apocalypse dans la communication de couple, c'est le mépris. c'est le plus destructeur de tous. Il va se glisser dans l'ironie, dans les soupirs, dans les sarcasmes, dans les regards levés au ciel, dans les petites phrases qui rabaissent, dans l'humour humiliant qui ne fait rire que toi. C'est une forme de violence psychologique. Le mépris, ça n'est plus une tentative pour être entendu. Ça n'est plus une tentative maladroite pour être compris, c'est une tentative pour reprendre du pouvoir. Et cette façon de faire, elle est inacceptable parce qu'elle crée une relation avec plus de jeux psychologiques que d'intimité. Et les jeux psychologiques, c'est de l'intimité ratée. On fonce droit dans le mur, là. Le troisième cavalier de l'apocalypse de la communication de couple, c'est la défensive. Alors la défensive, elle se manifeste par les justifications, les contre-attaques, les « oui mais toi aussi », les tentatives désespérées de prouver que l'on n'est pas en faute, pas en défaut, pas en manquement. Derrière la défensive, à nouveau, il y a une peur, souvent très ancienne, d'être accusée, rejetée, exclue ou jugée insuffisante. Et enfin, le quatrième cavalier de l'apocalypse, c'est le retrait, le silence, la fuite émotionnelle. Celui ou celle qui se retire ne se désintéresse pas. Il se protège d'une surcharge émotionnelle devenue ingérable. Il s'éteint pour ne pas exploser. Je parle là d'un retrait qui est quelqu'un qui est dans un mécanisme de s'emmurer, et non pas de quelqu'un qui fait ça pour punir l'autre. Ça, à nouveau, c'est une forme de jeu psychologique avec un levier de manipulation qui peut être exercé pour créer des peurs et des conditionnements dociles chez la personne qui est en face. Ce cavalier, ça n'est pas ça. C'est le retrait comme mécanisme de protection et non pas comme mécanisme de manipulation. Il est entendu que tous ces cavaliers dont je te parle sont des réactions de survie émotionnelle et je le répète, et ce ne sont pas des jeux de manipulation. L'intention n'est pas là, malgré que ça provoque parfois sensiblement la même chose. Là, ce que tu peux faire déjà, c'est observer. Observe quels sont tes points de fragilité à toi, quels sont les points de fragilité de l'autre. En général, quand ça ne va pas, quel est ou quels sont les cavaliers que vous avez tendance à utiliser. Parce qu'évidemment, une fois qu'on les a repérés, l'objectif, quand on est conscient et non plus inconscient, eh bien, c'est de pouvoir commencer à se saisir de son pouvoir d'agir et poser l'intention de les utiliser de moins en moins, de s'en émanciper, de trouver une stratégie plus réfléchie, moins automatique, plus bénéfique. La troisième chose que je te propose et qui est importante, c'est de partir de l'idée que ces cavaliers, ils ne naissent pas dans le couple. Ils viennent d'une histoire bien plus ancienne. Derrière ces réactions, il y a ce qu'on appelle les blessures émotionnelles fondamentales. Cinq grandes blessures structurent notre rapport au lien et notre rapport à nous-mêmes aussi. Et ça, c'est Lise Bourbeau. Si vous ne l'avez pas lu, je vous propose de lire son livre sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Alors, les 5 blessures dont je te parle, ce sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, ces blessures, ce sont des empreintes de la mémoire, laissées par des expériences répétées ou traumatiques, dans lesquelles tu as compris, tu as déduit, tu as conclu des croyances. Des croyances sur toi, des croyances sur les autres, des croyances sur le monde d'une façon générale. Alors on a pu conclure qu'on devait s'adapter pour être aimé, ou bien qu'on devait régler ses problèmes tout seul, ou bien qu'on n'était pas suffisant pour être aimé, ou bien que l'autre ne restait jamais, ou bien qu'on n'était pas digne d'être aimé, ou bien qu'on n'avait pas sa place, ou bien qu'on n'était pas légitime, ou pas reconnu, et autres croyances négatives sur soi, liées à l'environnement culturel, économique, familial, géographique, contextuel dans lequel on a grandi. Avec le temps, ces 5 blessures de l'âme deviennent en plus des peurs actives, des peurs de ressouffrir de ça à nouveau. Grosso modo, hein, chacun d'entre nous, peu importe les détails avec lesquels on l'exprime, finalement, on veut que deux choses, hein, être heureux et pas trop souffrir. Alors qu'on parle de ça en disant « je veux être en bonne santé, je veux pas qu'il me quitte, je veux une vie de famille harmonieuse, je veux un travail qui soit pas un travail torture, je veux déménager au soleil », au fond, ce qu'on dit tous, c'est « je veux être heureux et je ne veux pas trop souffrir ». Ces peurs, elles créent des filtres de lecture à travers lesquels chacun d'entre nous interprétons nos interactions intimes. Alors la blessure du rejet, elle peut t'influencer en faisant des réactions qui font penser que tu es inadéquat, exclu, ça va te rendre hypersensible à l'indifférence, te faire accumuler des sentiments d'injustice, de la colère. Et puis ton cerveau, il va te biaiser en faisant un hyperfocus sur ce qui vient valider ton sentiment de rejet et en occultant par contre ce qui vient l'invalider. Et ainsi, peur et blessure s'alimentent l'une l'autre et se font grossir l'une l'autre. La blessure d'abandon, elle nourrit une peur intense de perdre le lien, elle s'exprime souvent par les reproches, par les demandes affectives très importantes, déguisées souvent parce que c'est jamais assez, parce que c'est un puits sans fond, parce qu'il y a le sentiment persistant d'être quand même tout seul, de ne pas être choisi, de ne pas être suffisamment important, une recherche d'approbation qui peut être excessive, un besoin exagéré de soutien, de plaire, de séduire, de reconnaissance. Et ça peut amener à des interactions en dépendance affective ou au contraire en contre-dépendance affective. La blessure d'humiliation, elle peut générer un besoin inconscient de ne plus jamais être rabaissé. Et ça peut donner naissance au mépris comme mécanisme de défense ou à des jeux de domination-soumission. La blessure de trahison, elle pousse à contrôler, à anticiper, à se défendre avant même d'être attaqué. La blessure d'injustice, enfin, elle installe une rigidité émotionnelle, une exigence de perfection, une froideur apparente qui oscille entre critique et retrait. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y aurait beaucoup plus à dire sur ces 5 blessures, mais ce que je veux avant tout que tu retiennes dans ce podcast, que je ne veux pas trop long non plus, c'est qu'il y a des disputes qui sont des bons investissements et d'autres qui ne sont pas des bons investissements. Que les disputes mettent à l'œuvre des cavaliers de l'apocalypse de la communication de couple, qui arrivent de manière réflexe, par survie émotionnelle, et qui sont en lien avec tes propres blessures intérieures. Et cette complexité, tu l'as. Et l'autre est tout aussi riche et complexe, et tu comprends bien que c'est pas facile, quand on va pas fouiller ça, de bien se disputer, c'est-à-dire de faire des disputes à plus-value pour le couple. C'est donc pas ton caractère ou son caractère, mais plutôt votre façon individuelle de vous protéger face à des peurs anciennes, encore actives, à des blessures qui sont toujours vives, que tu en aies conscience ou non. C'est pour cette raison que rester à la surface des disputes ne fonctionne jamais. Tant que tu cherches à mieux parler, à mieux convaincre ou à avoir raison, tu t'adresses au cavalier, pas à la blessure. Or, une blessure, ça ne s'apaise pas avec des arguments. Elle s'apaise avec de la sécurité, elle s'apaise avec de l'accueil. Prendre ton pouvoir d'agir dans le couple ne consiste pas à contrôler l'autre ni à gagner la discussion. C'est quelque chose que je dis régulièrement en séance, c'est que dans le couple, quand tu gagnes de cette façon-là, tu perds. Et tu perds beaucoup parce que tu auras sans doute gagné, et tu as été très contente de gagner par de meilleurs arguments, une manière de faire pression, de l'activation des peurs, de la persuasion, une intelligence rationnelle, etc. Et sur le moment, la personne en face de toi te donne raison, cède, plie, et là tu as gagné. Mais en fait, tu as perdu, car tu n'as ni rejoint l'autre, ni respecté le rythme de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça cède de surface, mais à l'intérieur, ça va faire rancœur, ressentiment, regret, rumination. Tous ces mots qui commencent par « eux » et qui vont signer que dans votre relation, pendant que toi, qui es satisfaite, tu vas passer à autre chose, et bien pour la personne en face, il y a du passé qui ne va pas passer et qui va impacter le présent. Et ça va te tomber dessus un moment ou à un autre. Méfie-toi des personnes qui cèdent et qui ne disent rien. C'est qu'une question de temps avant que ça revienne. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? Déjà, reconnais tes cavaliers de l'apocalypse et ceux de ton ou ta partenaire. Je l'ai dit, à partir de cet instant, tu passes de la réaction à la conscience, de la survie au choix. Ensuite, tu peux te faire accompagner pour déceler là où les blessures sous-jacentes et les apaiser. Et pour ça, eh bien déjà, tu n'as pas besoin que ton ou ta partenaire accepte une thérapie de couple. Parce que ce n'est pas toujours accepté, la thérapie de couple. Et quand ça l'est, c'est souvent trop tard, malheureusement. Le couple s'est déjà énormément abîmé. Mais pour faire ce que je te propose, eh bien tu n'as besoin que de toi. C'est ta part de pouvoir, ta part de responsabilité possible. La relation, pour qu'elle soit comme elle est, c'est un ping-pong. Et la manière dont on fait ping influence la manière dont l'autre va faire pong. Donc si tu changes ta manière de faire ping, tu fais bouger ton couple sans que l'autre n'ait à voir personne. Alors oui, ça fait chier, parce que c'est encore toi qui vas faire plus d'efforts que l'autre. Mais dans un couple, il y en a toujours un des deux qui est plus capable que l'autre de faire des efforts. C'est pas juste, mais c'est comme ça pour le moment. Un couple, c'est un lieu de transformation et de croissance personnelle. Et ça ne devrait pas être un champ de bataille. Tu ne devrais pas être au quotidien un militant ou une militante. Ça, c'est l'énergie du combat et donc de la survie. Être amoureuse, amoureux, c'est bien. Mais être heureux ou heureuse en amour, c'est encore mieux. Je suis profondément pour les couples qui durent, qui traversent les épreuves, cependant pas à n'importe quel prix individuel. Alors j'espère que ça t'a apporté quelque chose, que tu sauras l'utiliser. L'apaisement des conflits commence par la compréhension de ton propre fonctionnement avant de passer par la compréhension du fonctionnement de l'autre. C'est exactement ce que je t'invite à explorer si tu as envie d'aller plus loin avec moi sur les sujets de la vie affective et donc de ton fonctionnement personnel, qui est un lieu qui est régulièrement mis au défi. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site hypnose-sf.com ou bien m'envoyer un message par WhatsApp au 07 69 60 92 44. Je te remercie chaleureusement de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. C'était Célia, praticienne en hypnose, en analyse transactionnelle et love coach.